Bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs. Hein? Bah oui, on se multiplie la journée, hein, entre le matin. Voilà, je salue l'IA.
À la technique.
Qui a la technique. Et puis, bien sûr, qui va animer. Jean-Joseph.
Voilà.
Et puis, un petit nouveau arrivé, là.
Hein? Voilà, donc pour cette première émission,
notre magazine Environnement, comme il y a une tradition tous les mardis du mois, voilà.
Voilà, donc du coup, meilleurs vœux à tous, puisque c'est la première année, la première émission de l'année 2026. Donc pour cette première émission, au lieu de choisir un thème particulier, j'ai préféré inviter un ami, Michel. Donc, ça fait deux
Bonjour.
Michel autour de la table.
Et bonne année.
Pour
Pétero de Michel, alors.
Voilà. Hein, à une époque, il y a eu beaucoup de Michel. Il y a des prénoms qui sont à la mode à certains moments, comme ça. Et pour parler un petit peu de l'environnement en général, comment est perçu l'environnement aujourd'hui, ou comment Michel peut le percevoir, et définir un petit peu le champ de l'environnement qui, du coup, sera éventuellement décliné après, pendant tout le reste de l'année, selon différents thèmes, par, du coup, des invités spécialistes. Donc, aujourd'hui, on n'a pas un invité spécialiste.
Mais quelqu'un qui vient de Bellefontaine, c'est déjà un spécialiste de l'environnement.
Exactement.
Voilà. Donc, Michel, comment tu perçois, qu'est-ce que c'est pour toi l'environnement? Comment tu perçois que la société appréhende l'environnement d'après ta vie, on va pas dire déjà longue, mais quand même, un certain cheminement. comment les choses te paraissent avoir évolué et peut-être quelle perspective de l'avenir peux-tu avoir?
L'environnement, pour moi, c'est assez théorique si je pense à ma vie personnelle, parce que je suis un privilégié, je vis encore dans un endroit, disons que...
Préservé. Une bulle campagnarde.
Voilà, tout à fait, oui. J'ai une petite vie de retraité avec jardin, animaux, poules, lapins. L'environnement, c'est vrai que c'est un sujet qui me préoccupe, mais plus théoriquement que pratique.
Je vais te poser une question par rapport à la polémique qu'il y a eu concernant les éoliennes là-haut sur le plateau. Qu'est-ce que ça a donné?
Les éoliennes, il y a un projet d'éoliennes.
Alors, bien sûr, il y avait des gens qui étaient contre. J'ai essayé de me renseigner. Au début, j'étais pour. Et puis après, j'étais moins pour. Mais on m'a pas demandé mon avis.
Ah oui, pourquoi?
Oui, parce que j'ai lu aussi le livre de Jean-Marc Jancovici, qui est sur la table, Le Monde sans fin, qui est très intéressant. Et j'ai essayé de me faire une opinion, mais qui n'est pas déterminée vraiment. J'ai toujours un doute. C'est que les éoliennes, il y a le côté négatif qui production d'énergie intermittente, destruction du paysage.
Il y a quand même de la place là-haut sur le plateau pour installer des éoliennes, non?
Il y a eu un projet, oui, en forêt de Humont, qui a été refusé.
Ça pose un inconvénient pour l'environnement, je ne sais pas.
Alors, en fait, toute activité humaine a un impact sur l'environnement. Hein. Donc, justement, la définition de l'environnement, tu parlais de ton environnement, effectivement, préservé. Effectivement, tout dépend un petit peu de où on place le curseur. Après, l'environnement, on peut avoir un environnement immédiat qui est tout à fait préservé. Après, tout dépend à quelle échelle du territoire on s'adresse. Après, Bah, la planète, maintenant, on sait que la planète est finie et la planète devient un village. Hein, notre, on sait très bien que notre style de vie ici impacte les gens à l'autre bout de la planète. En particulier, Jean Covici l'explique très bien. C'est un bon vulgarisateur, en particulier du problème du carbone. Hein, donc, puisque c'est ça quand même le problème mondial. On y reviendra tout à l'heure un peu dans cette histoire.
Ah oui, quelle est ton opinion alors par rapport? Parce qu'il y a eu quand même une controverse assez importante.
Alors, le problème de tout, n'importe quoi, Par exemple, Jean Covici, finalement, il dit le nucléaire est une bonne solution. D'accord? Jean Covici dit globalement, il est plutôt pro-nucléaire. Il dit,
provisoire.
En tout cas, pendant un certain nombre d'années, en attendant quoi? D'autres sources d'énergie?
En attendant une évolution que personne ne maîtrise pour l'instant. Peut-être évolution technologique, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est urgent de faire quelque chose. Et d'après lui, qui m'a convaincu, le nucléaire qui est fait peut servir à atténuer les problèmes futurs. Dans un premier temps, mais c'est pas la solution à long terme.
Alors, effectivement, on avait à une époque le choix de développer le nucléaire ou pas. Le choix a été fait, certains s'y sont opposés, mais maintenant, effectivement, il est là. Alors, on a fermé une centrale, quand même, celle de Fessenheim.
C'était une bêtise.
Mais ce qui était nécessaire, parce que elle devenait même dangereuse.
Les avis divergent.
J'ai tendance à croire que c'était une bêtise politique.
En tout cas, donc, le parc nucléaire en France est important. Hein, donc, il a été développé quand même à une époque, en particulier pour avoir de quoi fabriquer la bombe atomique quand même. Hein, c'était quand même une des raisons.
54 réacteurs.
On est un pays qui a une électricité la plus décarbonée, parmi les pays qui ont une électricité très décarbonée, puisque le nucléaire, effectivement, son intérêt, c'est d'être décarboné,
en tout cas,
voilà. Mais, effectivement, comme dit Michel, l'autre Michel, on n'a toujours pas réglé le problème des déchets. Hein. D'ailleurs, en ce moment, depuis plusieurs mois, il y a donc la Commission nationale du débat public qui ouvre le débat au niveau national sur le laboratoire de Bure, l'enfouissement à Bure.
Hein. Et oui, oulala.
Donc, c'est encore pas fonctionnel, c'est encore pas. Enfin, je veux dire, en France, on produit des déchets. Pour l'instant, on n'en fait rien.
On les envoie
ailleurs, hein, dans d'autres pays. Donc, le nucléaire. Après, l'intermittence, effectivement, l'alternative actuelle, pour l'instant, en dehors des énergies carboniennes qui dégagent du carbone, c'est l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, on bénéficie actuellement de tout ce qui a été fabriqué par les générations précédentes, l'après-guerre et dans les années 60. Donc, on a effectivement un pourcentage d'électricité fabriquée par l'hydraulique. Tout le petit hydraulique, par contre, on l'a laissé tomber. Hein.
Et pourtant, il y avait une usine qui fabriquait des centrales au fil de l'eau. C'est pas loin, près de chez nous. Hein, pas loin des fonds, en montant à Bellefontaine, justement. Hein, je sais pas si cette usine continue à fonctionner à l'heure actuelle, parce que, bien sûr, il fallait qu'il y ait des commandes. Mais des petites centrales au fil de l'eau, parce que c'est vrai que les grosses centrales hydroélectriques, hein, même si c'est en fait la propriété des usines textiles en particulier ici, c'était quand même difficile de préserver l'environnement autour, parce que il y avait toujours le problème poisson, et c'est
alors effectivement poisson, donc tout a un impact. Donc effectivement, l'énergie hydraulique, elle a un impact mais donc elle avait cet intérêt et que et là elle est décarbonée. Donc si on veut sortir du carbone, après donc on a effectivement après l'énergie hydraulique est aussi intermittente. Alors quelque part le nucléaire aussi intermittent puisqu'on fait des arrêts quand même central là. Donc mais effectivement que ce soit l'énergie hydraulique,
le nucléaire c'est l'énergie fossile. Il faut voir un petit peu ce qu'on pollue par exemple au Niger, etc.
C'est surtout qu'on importe l'uranium bien sûr, hein, c'est ça.
Un peu indésirable là-bas. Bon, il y a pas que le problème du nucléaire, hein. Mais bon.
Je pense que c'est un sujet essentiellement politique d'abord d'information des populations, ce qu'on est un petit peu modestement en train de faire. Voilà. Mais c'est surtout politique. Par exemple, les centrales hydrauliques, il y a des inconvénients petits, mais c'est quand même formidable, les centrales hydrauliques.
Tout à fait.
Oui, enfin... mais on a laissé, ou on est en train de laisser ça filer sous gouvernement européen, un peu sous contrôle européen, notre énergie EDF vendue à l'Europe. Alors là, je suis souverainiste dans ce sens-là.
Vendue dans le sens de vendre l'électricité à nos voisins ou...
Non, c'est pas ça, la coopération, c'est bien. Mais disons que on a quand même laissé le leadership de l'énergie à l'Europe. Alors là, si on me demandait mon avis, je dirais je suis contre, parce que c'est une bêtise absolument gigantesque.
Surtout point de vue financier.
Alors, il y a du pour et du contre, parce que le problème de la... Alors, effectivement, donc dans les énergies décarbonées, qui sont globalement ce qu'on appelle les énergies renouvelables, donc l'éolien et le solaire sont effectivement des énergies intermittentes. Et... c'est dans ce cadre-là que la coopération internationale peut jouer, hein, puisqu'effectivement, on peut très bien acheter. Actuellement, on échange de l'électricité entre l'Espagne qui en produit beaucoup parce qu'ils ont quand même des installations solaires importantes. Eux ont fait le choix d'investir dans le solaire à la place du nucléaire. Ils considèrent que c'est plus rentable à long terme. Inversement, l'éolien, lui, va fabriquer plus d'énergie à certains moments dans d'autres pays. Et puis nous, on va compenser effectivement par notre production nucléaire quand voilà. Donc après, l'intermittence, elle est déjà.
Je suis pas tout à fait d'accord avec cette notion d'intermittence.
Laisse-moi juste un peu terminer.
Le solaire n'est pas forcément intermittent.
Si le solaire, il y a pas de soleil la nuit. Enfin, donc je veux dire, donc comme il y a pas de soleil la nuit, tu n'as pas de production d'électricité la nuit. Donc, c'est ça l'intermittence.
De savoir comment qu'on fabrique.
Alors,
pour quand.
Après, l'intermittence, on l'a toujours gérée. On l'a toujours gérée, par exemple, le petit hydraulique, tu parlais des filatures. Hein, donc, il y avait des moments où il y avait plus d'eau, des moments où il y avait moins d'eau. En général, ils avaient une réserve d'eau, une retenue qui permettait de gérer l'intermittence. Parce que la gestion de l'intermittence, c'est ça. L'hydraulique peut réagir de manière très rapide. On ouvre les vannes, on ferme les vannes. Hein. Donc, en même temps que la construction des centrales, grandes centrales hydrauliques, on a construit des steppes, des stations, je sais plus les noms, c'est en fait des lacs qui mettent en réserve de l'eau, hein. Donc la plupart des grands barrages fonctionnent comme ça et on peut faire démarrer quand on veut, quand on en a besoin.
Ça, c'est une solution géniale qu'il faudrait populariser, généraliser le plus possible.
Effectivement. Alors,
ben, la Bresse, par exemple, s'est battu. Combien de barrages ? Trois barrages ? Hein, trois barrages. Bon, c'est. Je pense que là, pour une ville comme la Bresse, ça fait pratiquement l'énergie.
Bah, effectivement, pour la cité. Localement, on voit bien une régie d'électricité. Elle gère ce problème d'intermittence à sa manière. Donc, la Bresse avait trouvé des solutions. C'est des solutions, effectivement, que on avait il y a, on va dire, 20 ou 30 ans. Mais depuis une trentaine d'années, on ne fabrique plus aucune station de Alors, oh, je ne trouve plus le nom du système, station de transfert d'énergie. Enfin, c'est le stockage de l'énergie par donc les retenues hydrauliques. Et en fait, on n'en construit plus. Alors que, justement, l'intermittence arrive. Et là, tu as raison, c'est des choix politiques. Hein, en fait, il n'y a pas de vision politique claire là-dessus.
Je prends un exemple que j'ai lu. Les Danois sont très forts en énergie éolienne, mais comme c'est intermittent, ils se sont arrangés, paraît-il, avec la Norvège, qui a beaucoup de ressources hydroélectriques, et ils échangent leur énergie. C'est bien, mais les Danois se font avoir dans ce domaine, parce que quand ils ont trop d'énergie, ils la vendent pas cher aux Norvégiens, par exemple. Et quand ils manquent d'énergie, les Norvégiens leur vendent leur énergie hydroélectrique chère, parce que eux, ils peuvent la stocker. Donc, ils la vendent au prix où ils veulent. Alors,
et puis, comme ils ont du pétrole, du gaz,
c'est un petit peu injuste, mais au moins, ils sont souverains. Ce que je reproche, c'est que nos gouvernements successifs ont laissé la souveraineté d'EDF à l'Europe, ce qui est une aberration. L'Europe, ça devrait être national et rester national, l'énergie. Oui. Parce que ce que je pense, si l'énergie...
Voilà un beau débat.
Comme on arrive à faire de l'énergie pas chère avec le nucléaire, par exemple, ça aurait permis de fournir de l'électricité à super bas prix, peut-être sans taxe même, aux industries françaises, qui auraient augmenté leur compétitivité par rapport aux Allemands, par exemple. Parce que les Allemands, eux, ils se sont fait avoir. Et, alors, j'ai pas toujours pensé ça, mais je dirais maintenant qu'ils se sont fait avoir par les écologistes. Ils ont fermé leur centrale nucléaire et c'est apparemment une catastrophe. Là, c'est vrai que je suis un peu Jean-Marc Jancovici toujours.
C'est vrai. Insoluble, y compris en France. Il ne faut pas croire que l'industrie nucléaire est particulièrement polluante pour des milliers d'années quand même, il ne faut pas l'oublier.
Oui, alors là, c'est le débat toujours. Les écologistes avant, et j'en fus dans ma jeunesse, étaient anti-nucléaire. Mais si on fait un peu de nucléaire... on n'a pas toujours les compétences techniques évoluées et le prix de revient est augmenté. Si on en fait beaucoup, on acquiert de la compétence et le prix baisse. Alors, c'est un débat, c'est vrai. Et encore une fois, j'ai pas toujours pensé ça. Mais je pense que, vu qu'on a le nucléaire et que même le nucléaire militaire en ce moment, et on voit que c'est important si les Russes dénigrent tant la France, c'est parce qu'ils ont un petit peu peur. Ils savent qu'on peut se défendre. Donc, vu que c'est fait, encore une fois, moi, j'aurais pas choisi ça en 1950, mais j'étais pas né. Mais maintenant que c'est fait, autant l'utiliser à bon escient. Donc, je suis plein pot dans le raisonnement de Jancovici.
Qu'on en a besoin actuellement.
On en a besoin provisoirement.
Donc, il faut l'utiliser. Oui. Juste, je voudrais que tu reviennes pour expliquer ton histoire d'EDF européen. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Oui, parce qu'on
a été obligé de vendre de l'électricité pas chère à des sociétés privées qui le revendent cher. Et je ne vois pas l'intérêt, et beaucoup de gens ne voient pas l'intérêt de ça. Alors que si EDF était resté un monopole national, on pouvait avoir donc cette énergie pas chère, moins chère, et ça n'empêche pas la coopération avec les autres pays européens, mais on n'aurait plus favorisé nos entreprises.
Oui, c'est la distinction entre distributeurs d'énergie, fournisseurs d'énergie, tout ça, c'est un peu compliqué. On va repartir un petit peu donc avec une pause musicale qui va nous reprendre un petit peu l'environnement de manière générale avec une chanson que j'ai retrouvée, déjà ancienne, donc avec Charles Aznavour. Voilà, Lou qui est arrivé, voilà, donc va nous mettre...
Dans l'avenir, justement, parce que on a des anti-nucléaires, ici aussi, qui nous ont accompagnés Et puis il faut voir tous les problèmes qu'il peut y avoir, hein, parce que aujourd'hui on est en train de payer très cher le PR qui fonctionne toujours pas, hein. Et puis bien sûr l'industrie nucléaire est en perte de vitesse, hein, aussi, il faut bien saisir. Non, les Allemands ont peut-être fait un bon choix finalement de pas s'aventurer là-dedans, parce que c'est vrai que la gestion des déchets en particulier, c'est terrible. C'est
problématique. On en fera un débat un jour spécifique, sinon on n'en finira pas. Allons-y pour la pause musicale, Lou, si tu veux bien.
Voilà, tu as raison.
Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Les Tchernobyl d'Henri Bambelle voient naître des fœtus mort-nés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus? Sous nos pieds, la terre promise, patrimoine de nos enfants, petit à petit agonise, nul ne s'en soucie, et pourtant des espèces devenues rares sont en voie de disparition, et la laideur chante victoire sous le plastique et le béton. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot. Il mène à tout, même à la guerre, et nul ne s'inquiète de l'eau. Où en sont la flore et la faune? Et qu'advient-il du firmament, privé de la couche d'ozone, gardien de l'environnement? Sous le ciel, le sol se révolte, car l'homme trompe la nature. Quand il trafique les récoltes, il hypothèque son futur. Sous le soleil, les forêts brûlent et l'on gave les champs d'engrais dans la boulimie majuscule du rendement et du progrès. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? Il est temps de prendre conscience que l'homme ne respecte rien. Il se fiche de l'existence des baleines et des dauphins. L'éléphant meurt pour son ivoire, la bête rare pour sa peau, et dans les grandes marées noires, le mazout engle les oiseaux. La société consommatrice avance impunément ses pions, tandis que les arbres pourrissent dans les villes et leurs environs. La sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie, et certaines races humaines crèvent d'abandon et d'oubli. La terre meurt, l'homme s'en fout,
sa vie.
Un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? La terre meurt,
réveillons-nous.
Réveillons.
Voilà donc cette chanson de 2007 que je ne connaissais pas, que j'ai découvert assez récemment, qui montre qu'en fait en 2007, l'environnement était déjà une préoccupation. Et tout à l'heure, on a parlé beaucoup de l'énergie, mais en fait, l'environnement, c'est plein d'autres choses. Charles Aznavour parle des océans poubelles. Alors, il parle de Tchernobyl et des déchets nucléaires aussi. Mais donc, il parle de ce patrimoine de notre terre qu'on laisse à nos enfants, de la disparition des espèces, le plastique, le béton, les finances et le pétrole, le problème de l'eau, avec les conflits qui sont générés par le pétrole et autour de l'eau, les conflits qui peuvent être déclenchés par ça. Il parle de l'ozone, de l'agriculture, de la course au rendement, du progrès, de la disparition des espèces, j'y reviens, sur les éléphants, les baleines, les dauphins. La sécheresse, il parle de la sécheresse à l'époque, on ne parlait pas tout à fait peut-être de réchauffement climatique déjà, mais bon, on parlait déjà de la sécheresse. Et de populations abandonnées à leur sort. Voilà, donc l'environnement, de manière générale, je voulais aujourd'hui faire un petit historique de cette perception de l'environnement. Donc longtemps, en particulier la religion, finalement, a considéré que la terre était au bénéfice des hommes et que c'était une ressource infinie.
La terre et les animaux.
L'ensemble de la terre.
Aucun respect pour l'animal.
Tout à fait.
De la part des
l'ensemble
des
de la terre. Voilà. Et puis donc, je suis remonté un petit peu en arrière jusqu'à, on va dire, globalement, l'époque romantique, qui a mis en valeur la nature. Déjà Jean-Jacques Rousseau, avec cette idée d'une nature. Oui, il y en a eu plein. En 1859, par exemple, Darwin commence à avoir une idée globale de ce qui fait fonctionner la nature. Il appelle ça l'économie de la nature. Et en 1866, Ernst Haeckel donne une définition de l'écologie comme une science de l'habitat. Effectivement, l'écologie, c'est les différents habitats et l'environnement. Quelle est la différence entre environnement et écologie? L'environnement, c'est une perception globale, alors que l'écologie, c'est l'étude des différents écosystèmes. J'ai retrouvé aussi donc un géographe, Élisée Reclus, qui a publié une géographie universelle qui, en 1800, on va dire dans les 1880, qui prenait en compte la globalité, l'environnement dans sa globalité. Par exemple,
les précurseurs.
Parmi ses précurseurs, en 1825, les peintres de l'école de Barbizon ont défendu la forêt de Fontainebleau sur des projets d'enrésinement de la forêt. Et on peut les considérer qu'ils étaient parmi les premiers éco-terroristes, puisqu'ils sont allés arracher des plants qui avaient été plantés et ils sont allés empêcher l'abattage des arbres qui existaient.
Barbizon, c'était surtout des hêtres. Et comme chez nous, on a planté beaucoup de résineux.
Voilà, c'est ça. Donc, c'était contre l'enrésinement. Et Georges Sand, en 1872, a écrit un moratoire, écrit un plaidoyer en disant « Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par le dessèchement sans cataclysme nécessaire par la faute de l'homme. » Et tout ça a amené au classement de la forêt.
Vous avez fait à Georges Sand, justement.
Au classement de la forêt de Fontainebleau, qui est une des premières zones classées, une zone naturelle. Et ensuite, donc, il y a eu le classement, le parc national de Yellowstone aux USA en 1864, qui démontrait la prise de conscience de la préservation de l'environnement, ou en tout cas de certaines zones naturelles. Par rapport à ça, eh bien, en 1896, donc toujours, finalement, pas au siècle dernier, mais l'autre d'avant, donc le Suédois Arrhenius démontrait donc les gaz à effet de serre en montrant que le CO2, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, donc augmentaient la température, la concentration faisait augmenter la température de l'atmosphère, de la planète. Et en rapport d'ailleurs avec les études de sur ce qui s'est passé autrefois, en démontrant finalement que l'extinction des espèces était aussi liée à l'évolution du climat, ce qui a été ensuite démontré donc par tout un tas de choses, par en particulier les études des bulles dans les glaces avec les forages pour aller rechercher les atmosphères d'autrefois.
Ça fait longtemps qu'il y a des extinctions d'espèces à toutes les
époques. Il y en a toujours eu.
Il y en a toujours eu, beaucoup. Et ce n'est pas ça le drame. La Terre, elle s'adapte. Le drame, c'est l'extinction du genre humain. C'est ça qui nous préoccupe.
L'enjeu effectivement, c'est dans quelle mesure l'extinction aussi des espèces impact sur notre vie.
Voilà.
Donc effectivement, maintenant, on sait très bien que si tous les pollinisateurs disparaissaient, eh bien, comment on produirait notre nourriture, Donc effectivement. Après, il y a eu tout un tas de catastrophes, comme nous, on se souvient de la Mococadis, de Tchernobyl, tout un tas de catastrophes qui ont été aussi une démonstration de la fragilité de certains écosystèmes.
Oui. Des catastrophes très, très petites, si l'on compare
à l'échelle
à la Seconde Guerre mondiale, même à la Première, si on compare aux guerres actuelles, si on compare aux extractions massives de pétrole, de charbon, gaz, qui augmentent de manière exponentielle, comme on dit. La Mococadis, c'est presque un détail, diraient certains.
Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, mais c'était en fait des déclencheurs,
très durables,
des déclencheurs de la prise de conscience. Et au moment-là, il y a eu des vulgarisateurs comme par exemple Cousteau, Paul-Émile Victor, qui ont montré que il y avait effectivement des milieux qui étaient plus fragiles que d'autres.
Arantzazieff,
voilà,
René Dumont.
Tout à fait.
Et alors j'ai appris ça hier, je crois, j'ai regardé sur YouTube, Michel Simon,
oui.
L'acteur, Michel Simon, en 1965, c'est-à-dire 5 à 10 ans avant les Arantzazieff et compagnie, il avait déjà dit, et on voit ça sur l'INA, c'est l'Institut National de l'Archéologie,
de l'audiovisuel.
De l'audiovisuel, oui. Peut-être. Mais disons que c'est intéressant à voir sur YouTube. Michel Simon lui-même avait déjà compris ça.
Tout à fait.
Bien avant les grands chercheurs, là.
Donc, ça veut dire qu'effectivement, la prise de conscience, elle est arrivée. Et en 1972, donc, quel âge vous aviez en 1972, mais en tout cas, moi, je me souviens, donc, des prises de position du Club de Rome, qui, à l'époque, disait qu'il fallait stopper la croissance. Eux, leur objectif, c'était la croissance zéro. Donc maintenant, on parle de décroissance, mais à l'époque, il faudrait plus de croissance parce que la planète ne va plus pouvoir supporter.
Mais à l'époque, tous ces spécialistes-là dont on vient de citer les noms, ils étaient un peu considérés comme loufoques, un peu comme leur dire, c'était de la science-fiction. Personne n'y croyait. Et même aujourd'hui, il y a un déni fantastique parmi une grosse partie de la population.
Voilà, mais n'empêche que toute cette évolution de la prise de conscience fait quand même qu'en 1972, la conférence des États-Unis de Stockholm a décrété que l'environnement était un sujet pour le monde entier, avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et ensuite, un peu plus tard, donc en 1992, le sommet de la Terre de Rio qui a dit « la Terre est un bien commun » et aussi, comme tu le disais un petit peu, que notre santé dépendait aussi de l'environnement. Donc, en fait, c'était un sujet crucial pour la planète. Donc, avec ensuite une accélération un petit peu de tout ce qui est scientifique. Alors, on peut effectivement, dans tout ça, voir aussi quand même quelque chose qui, dans la prise de conscience, a abouti à quelque chose de positif, puisque dans les années 80, il y a eu le problème de la couche d'ozone. Donc, la découverte du trou dans la couche d'ozone a quand même abouti finalement en 1987 au protocole de Montréal, où les pays, donc à travers les Nations Unies, parce qu'effectivement, il y a l'échelle individuelle, tu le disais tout à l'heure, l'échelle locale, une échelle plus vaste, et puis il y a effectivement notre planète tout entière qui est représentée quand même par les Nations Unies. Donc, les Nations Unies qui font avancer les choses, de la même manière que la France est parfois un petit peu à la traîne sur la législation de l'environnement, et c'est parfois l'Europe qui fait avancer la France sur l'environnement, sur un certain nombre de choses. De la même manière, finalement, eh bien, les Nations Unies avancent à leur vitesse. Alors parfois, il y a un décalage, effectivement, avec les citoyens qui, eux, ont leur perception différente. C'était un petit peu pour ça que je voulais qu'on discute de la perception.
Il y a des dirigeants qui sont carrément...
Alors... Eh ben effectivement, donc les dirigeants, c'est par exemple Chirac avec la maison brûle, notre maison brûle, il y a des déclarations. Donc tout ce qui est instance des Nations Unies, effectivement, il y a des déclarations qui parfois sont un peu déconnectées, mais qui malgré tout font avancer les choses, puisque la création du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est quand même une structure scientifique de référence qui a été mise en place au niveau international et qui a permis de faire avancer les choses et de faire avancer les connaissances pour petit à petit faire avancer la mise en place d'un certain nombre de politiques. Alors on va passer à la deuxième pause musicale. Donc Lou, merci.
Marcher pieds nus sur le sable blanc, m'envoler dans le ciel avec les goélands. Je veux voir les poissons nager sous les coraux. Les vagues me feront un manteau, touche pas ma planète. Je veux trouver l'air pur, pouvoir respirer les parfums de nature, les écorces oubliées. Je veux sentir l'odeur de la forêt mouillée. Les arbres me feront un collier, touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Je veux des mots de paix inscrits sur les pierres, de l'eau et des forêts pour la planète entière. Je veux des chants d'oiseaux pour ouvrir les matins. Le vent me fera un écrin, touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Vous qui osez faire de la terre un désert, vous qui osez faire une poubelle de la mer, on vous laissera pas faire, nous on veut pas se taire. Toi qui aimes la vie, la protège, la respecte. Toi qui veux demain une terre parfaite, vas-y chante à tue-tête, touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Je veux des animaux, des plantes et des fleurs, des hommes qui savent encore se parler de bonheur. Je veux le beau sourire dans les yeux des enfants, la vie comme un grand cerf-volant. Touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Vous qui osez faire de la terre un désert, vous qui osez faire une poubelle de la mer, on vous laissera pas faire, nous on veut pas se taire. Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc, m'envoler dans le ciel avec les goélands. Je veux voir les poissons nager sous les coraux. Les vagues me feront un manteau. Touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Toi qui aimes la vie, la protège, la respecte. Toi qui veux demain une terre parfaite. Vas-y, chante à tue-tête. Touche pas ma planète. Touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Touche pas ma planète.
Voilà, donc on reprend le cours de l'émission. Donc je parlais tout à l'heure un petit peu de l'histoire du trou d'ozone, hein, et donc finalement cette histoire nous permet quand même d'avoir peut-être un espoir puisque le trou d'ozone, la prise de conscience a fait que au niveau des Nations Unies il y a eu protocoles pour comme le protocole celui sur les trous d'ozone, c'était le protocole de Montréal en 1987. Eh bien avec effectivement le fait que toute la production de chlorofluorocarbures et autres gaz qui posaient des problèmes sur l'ozone, cette production elle avait existé et elle avait des conséquences pendant un certain nombre d'années. Et en plus, donc, effectivement, tous les pays n'ont pas non plus signé le protocole de Montréal. Et malgré les engagements des pays, il y avait toujours des productions de gaz destructeurs de la couche d'ozone. Mais malgré ça, finalement, cette année, on peut considérer que le trou est quasiment refermé. Donc au départ, l'idée, c'était d'envisager une fermeture du trou dans la couche d'ozone dans les années 2050. Donc finalement, on est peut-être en avance sur les prévisions.
Hein. C'est très bien, mais ça, c'est parce que, à mon avis, ça touche les gouvernements qui ont décidé d'interdire certains gaz.
Prise de position qui était assez compliquée à gérer par les industriels.
C'est vrai, a été bien géré. Mais on voit les problèmes actuels, ça touche plus les gens, la consommation, la nourriture. Et ça, c'est plus dur parce que les gens sont obligés de faire des efforts.
Voilà, il suffit pas d'avoir une décision nationale. Encore faut-il que derrière, le citoyen lambda puisse s'engager. Oui. C'est ça.
Avec les gaz, ça ne posait pas de problème parce que c'était des décrets de gouvernement, etc. Donc les gens, ça n'impliquait pas leur niveau de vie et leur plaisir de consommer. Alors que maintenant, on demande aux gens des efforts sur les déplacements, la nourriture, les vêtements, ça c'est plus dur à accepter, quoi.
Et on l'a vu avec cette histoire de taxe carbone qui a abouti à il y avait beaucoup d'argent qui avait été mis pour construire des portiques au-dessus des autoroutes, etc., pour finalement mettre tout ça à la poubelle, les mobilisations. Alors effectivement, là, on touche aussi à cet aspect. Est-ce que on peut avoir des politiques pour l'environnement sans avoir de compensation sociale? Le problème, c'est de faire en sorte que on n'augmente pas la fracture sociale à travers des décisions environnementales, quoi. Hein. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Hein.
Ça va être dur
On le voit aujourd'hui avec les PFAS.
Alors c'est encore autre chose, les PFAS, mais bon, restons sur le oui. Vas-y.
Ça va être dur parce que quand ça touche au niveau de vie des gens, c'est très très difficile, et il faut pas oublier que au niveau international, il y a environ 7 milliards de gens qui n'ont qu'une envie, c'est consommer plus pour vivre à l'européenne ou à l'occidentale.
Pour arriver à notre modèle, c'est nous qui avons créé un modèle qui aspire,
c'est ça.
En fait. Hein.
C'est pour ça que, désolé, je suis très 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 pessimiste. On peut décider ce qu'on veut, même si la France avait une politique super écolo, ça changerait pas le monde. C'est ça qui me fait peur, quoi.
Alors, effectivement, tout ça pousse... effectivement, en France, on est un pays quand même avec un niveau d'éducation élevé. Et malgré tout, la prise en compte de l'environnement, après, elle existe quand même de plus en plus. Enfin, je veux dire, il y a... tout à l'heure, tu rappelais la première candidature, on va dire, environnementaliste, en 1974, de René Dumont. Et qui a fait, tu disais, Michel, 1%, bref.
Oui, 1%.
Mais maintenant, il y a des grandes villes qui ont des maires avec l'étiquette écologiste. Donc, bon, les choses avancent quand même. Alors, elles avancent sans doute peut-être plus sur une prise de conscience un peu, puisque finalement, c'est souvent les villes qui sont finalement plus... qui élisent des candidats, donc qui ont une prise de conscience politique peut-être plus importante. Mais en tout cas, effectivement, le problème de l'éducation est là. La majorité de la planète, effectivement, ne bénéficie pas du niveau d'éducation qu'on peut avoir en Europe. L'éducation en environnement a fait quand même beaucoup de progrès en Europe, avec peut-être une prise de conscience plus importante en Europe. Mais des pays comme les États-Unis, quel est leur niveau d'éducation, quelles sont leurs valeurs, c'est une autre histoire. Donc, alors, Trump, effectivement, est là pour...
C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté information.
Et des informations.
Et des informations. Tu as raison. C'est-à-dire que là, il y a quand même un réel problème d'information et désinformation, oui, parce que les médias ne relèvent pas forcément. Il suffit de regarder voir un peu le paysage audiovisuel, la télé en particulier, on peut quand même, par exemple, quand la polémique par rapport à la 86, le chiffre de cette autoroute-là, il suffit de prendre BFM TV. Après, ce que j'appelle la pollution par l'information, BFM TV, il laisse largement la parole aux détracteurs, bien sûr, de l'environnement.
Alors, effectivement, tout est un peu compliqué, par des actions, des rétroactions, des réactions. Dans tout ça, comment les choses vont pouvoir avancer? Après, le problème de la démocratie, donc effectivement le vote, les gens n'ont pas forcément conscience de l'importance de leur vote et de leur prise de position donc au moment des élections, mais il y a aussi donc que finalement en résistant à une évolution globale de la société au point de vue législatif, normes, etc., finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que petit à petit, les gens vont subir les choses avec l'érosion du niveau de vie, etc. Finalement, on s'aperçoit que la plupart des... tu parlais de comment les citoyens, comment le citoyen lambda va pouvoir s'engager dans des actions qui sont des actions individuelles. Mais en fait, on s'aperçoit quand même que finalement, ce qui correspond, je veux dire, quelqu'un qui prend des décisions, l'autre jour, donc avec l'IA, avec Lou, on avait fait une émission, par exemple, qui parlait beaucoup des conséquences de l'alimentation sur l'environnement. On s'aperçoit qu'effectivement, quelqu'un qui adopte un régime en consommant de moins en moins de viande, tu en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est une action individuelle, mais finalement, c'est en même temps une action qui va être économe pour son budget. Donc effectivement, quand on va prendre moins la voiture, ben finalement on va faire des économies sur notre budget aussi. Hein. Donc ça va être ça qui va être finalement le moteur obligé, puisque par choix on n'a pas réussi à faire les choses, à faire avancer les choses, ben finalement on y sera contraint par,
par les
sans doute par voilà. On va faire notre troisième pause musicale. Donc, tout à l'heure, on a écouté Dominique Dimé, qui a écrit une chanson en 2024, donc l'année dernière. Et là, on va repartir un petit peu plus loin, un petit peu avant, en 1998.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient,
va vite,
perds quelque chose de tes mains, ne te retourne pas ici, tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre, dis-toi qu'au bout il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène. Mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Voilà l'hymne de nos campagnes avec Trio. Hein. Donc, l'émission arrive à sa fin. Je voulais quand même parler donc du coup du mois de janvier, puisqu'on est au mois de janvier. Hein. Donc, dans d'autres émissions, on a parlé du dry January, c'est-à-dire que le mois de janvier...
On va parler lundi.
Le mois de janvier, c'est aussi
à partir de lundi,
la proposition de faire le point sur sa consommation d'alcool en disant, ben, j'essaye de boire moins d'alcool et de voir peut-être de ne pas en prendre et puis voir quelle est la place de l'alcool dans ma vie. Eh bien, depuis, je ne sais pas exactement quand, enfin, peut-être quelques années ou assez récemment, donc certains proposent le véganouari qui est, eh bien, pendant le mois de janvier, je vais essayer, hein, parmi toutes les bonnes intentions de début d'année, je vais essayer de manger moins de viande. et voir effectivement quelle est la place de la viande dans ma vie. Et puis, ben, ça peut commencer par des petits pas. Hein. Ça peut être commencer par diminuer sa ration. Hein, on peut continuer à manger de la viande, mais en manger moins. Hein, on peut faire la même chose avec le chocolat, on peut faire la même chose avec le café. Hein, enfin, avec plein de choses qui ont un impact sur la planète, qui viennent de l'autre bout du monde, par exemple. Hein. En tout cas, donc, ça peut commencer par ça, mais ça peut être aussi ben, ce qui était proposé de faire dans les cantines scolaires, qui était de faire un jour sans viande dans la semaine. Alors, tu disais, Michel, donc, que finalement, tu étais un petit peu pessimiste. Bon, après, on peut être... Enfin, je pense qu'il y a du bon, du moins bon. Enfin, il se passe un peu tout. Voilà, en fait. Mais, par exemple, on sait que les Français mangent de plus en plus d'œufs. C'est-à-dire qu'en fait, ils basculent petit à petit des protéines animales vers des protéines qui sont toujours animales, mais qui ne sont pas carnées. Et puis, petit à petit, on parle quand même de plus en plus des légumineuses et de basculer sur les protéines végétales. Et ça se fait quand même petit à petit. Alors, c'est pas complètement, quand on prend un magazine où il y a des recettes, il n'y a pas toujours des recettes végétariennes, mais ça commence à venir. Bon, après, donc, Michel, tu avais plutôt un avis un peu, une sensation plutôt négative sur la perception de l'environnement par les populations et dans le monde.
Et oui, j'aimerais bien être optimiste de nature, je suis plutôt optimiste, mais voyons les chiffres, encore une fois, en gros 7 milliards de pauvres dans le monde qui n'ont qu'une envie, c'est vivre comme nous, consommer. Donc, en plus, les gros capitalistes mondiaux qui n'ont qu'une idée, c'est extraire plus de pétrole, produire plus de marchandises, etc. Donc, il n'y a que par la contrainte que les populations mondiales vont être plus sobres. Mais ça sera par la contrainte, donc ça sera le malheur. Il y aura des famines et compagnie, et c'est pas choisi, bien sûr. Et voilà ce qui nous attend.
Alors, les deux pays qui pèsent le plus dans le monde, finalement, maintenant, c'est la Chine et l'Inde. Donc, hors micro, tu parlais un petit peu de la Chine. Et finalement, la Chine, bon, voilà, pays autoritaire, qui pollue beaucoup. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est eux qui produisent ce qu'on consomme, en grande partie, tous nos produits industriels. Mais en même temps, c'est la Chine qui pose le plus de panneaux photovoltaïques. Ils sont, du coup, très en pointe sur tout un tas de technologies vertes. Hein. On était d'ailleurs nous-mêmes très en pointe à une époque, puisque à une époque, on a été dans les premiers et en pointe au niveau de l'éolien, par exemple. Et maintenant, suite aux suppressions de subventions dans les années 70, finalement, on a perdu notre place. Hein. Maintenant, c'est d'autres. Et les technologies, on les a plus en France. Finalement, on va les chercher en Chine. Alors, l'Inde continue à être un très gros pollueur. Hein, et le sera encore, du fait de son augmentation de la population et justement de cette recherche de niveau de vie. Mais en même temps, ils ont une prise de conscience au niveau de leurs dirigeants, hein, surtout du fait que quelque part, ils savent qu'ils n'ont pas le choix parce que leur poids est tellement important qu'ils savent que, quelque part, l'avenir de la planète dépend d'eux. Hein. Donc, cette prise de conscience, elle ne va pas se faire de la même manière que chez nous. Chez nous, ça à travers l'éducation, ça a du mal à s'instiller dans la vie politique. Là-bas, leur perception est sans doute très différente. Et ils sont sans doute plus contraints que nous sur le plan financier, etc. Et c'est ces contraintes-là, pour moi, qui vont faire avancer les choses. En tout cas, j'espère. En tout cas, c'est sûr qu'on aurait pu éviter éviter de laisser la planète se réchauffer autant. Hein, là, on sait très bien qu'en fait, les objectifs de départ qui étaient de maintenir en dessous de 1,5 degré ne seront pas atteignables. On sait très bien. Mais la prise de conscience va automatiquement se développer au fur et à mesure, mais on sera le nez dans le mur. Et on n'avance que le nez dans le mur, en fait. C'est voilà, ça le problème.
La prise de conscience, elle vient petit à petit. Il faudra peut-être un siècle pour que les gens prennent conscience. Mais la Terre, l'évolution du climat ne nous attendra pas.
Exact.
Et on risque les catastrophes.
Tout à fait.
Pour conclure, je dirais que c'est pour ça que je suis pour le nucléaire provisoire maintenant, contrairement à d'autres écolos, parce que c'est le moindre mal, mais on court quand même à la catastrophe.
Oui, oui, oui. Enfin, le nucléaire, finalement, globalement, je dirais presque que c'est pas trop le problème, parce qu'en fait, il est là. Donc, voilà, ce serait dommage de pas l'utiliser, puisqu'il est là. De toute façon, la production, elle est là. Hein, on va pas faire le choix d'arrêter le nucléaire maintenant.
Si on est optimiste, on pourra attendre, mais il paraît qu'il faut plusieurs dizaines d'années, sinon plus, pour vaincre la technologie de la fusion nucléaire.
Oui.
Qui serait formidable, mais on en est loin. Il y avait déjà récemment un gros espoir sur l'hydrogène vert, qu'on nous disait qu'on était super riche en hydrogène vert, que ça allait révolutionner et tout. Et là, d'après Epsilon, ce mois-ci, c'est foiré. C'est comme la mémoire de l'eau. C'est des hypothèses qui ne se révèlent pas justes. Je suis pessimiste.
Voilà, donc cette émission arrive à sa fin. C'était une émission un peu introductive sur les suivantes de l'année. Et on va essayer d'avoir dans les émissions suivantes des spécialistes qui vont nous parler des actions possibles, des actions qu'on peut faire nous ou d'autres.
Avec RGM, maintenant, Jean-Joseph.
Je vais essayer un peu, hein, voilà.
Oui.
Voilà, merci de votre écoute. Bonne fin de journée ou de semaine.
Merci,
de,
Jean-Joseph. Tout ça. Merci à Michel.
Merci à Michel de sa présence.
Merci à vous, Michel. Invité, c'est pas seulement invité, hein. Il est partie prenante. Voilà.